Merci infiniment d'être présent ce soir en compagnie de Frédéric Paulin, que nous accueillons, le premier auteur français des éditions Agulot. C'est assez important pour le préciser. Frédéric Paulin qui vient de sortir « La guerre est une ruse », un roman qui fait beaucoup parler, un roman qui plaît beaucoup aux libraires, qui plaît beaucoup aux lecteurs.
Oui, les retours sont assez chouettes. Sont même, il faudrait se laisser aller à dire qu'ils sont dithyrambiques parfois. Enfin, c'est vraiment ça fait du bien.
Bah oui.
Ça fait vraiment du bien.
Il faut le dire, ouais. Quand c'est bien, il faut le dire, ouais. Toujours.
Dire d'où vient un roman, c'est toujours un peu compliqué. C'est un truc... je ne suis pas un grand théoricien de la littérature et je ne suis pas non plus un grand théoricien de mon écriture. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de comment on pourrait dire, qui se fait tout seul. Et écrire un roman, ça vient sans doute d'une idée. J'ai du mal à la dater maintenant. Sauf que c'est une période qui m'a... Disons que ce roman qui commence en 91-92 parle d'une période qui m'a marqué quand j'étais jeune homme, quand j'avais 20 ans, un peu moins. Ce jeune homme de 20 ans a été bouleversé par des images à la télé. On se souvient, il y a eu des grands massacres en Algérie à cette époque-là. Il y a eu aussi un jeune homme français, pour le coup, Khaled Kelkal, qui a posé des bombes en France. Je me souviens d'avoir vu son portrait en anthropométrique à la gare de Rennes. J'habite Rennes. Et à l'époque, je venais d'arriver à Rennes, d'ailleurs. Et j'ai vu son visage de profil et de face, et le gamin avait l'air jeune, et c'est des choses qui, en plus j'ai lu après la presse, et on expliquait d'où il venait. C'était un gamin qui venait d'une cité un peu déshéritée, plutôt déshéritée, en Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, la cité du Mas du Taureau. Mais c'est un gamin qui était au lycée de la Martinière, qui avait réussi à passer son bac et qui faisait une prépa au lycée de la Martinière à Lyon, qui avait finalement, selon ses professeurs, un avenir. Il aurait pu être un exemple de l'intégration, cette deuxième, troisième génération qu'on a appelée deuxième, troisième génération, dont les parents venaient d'Algérie ou du Maroc, du Maghreb en tout cas. Lui, il aurait pu s'en sortir, sauf que certains de ses amis, ses frères, avaient fait de la prison et que la nuit, ils faisaient des braquages à la voiture Bélier, tout ça. Donc ce gamin a fait ce qu'il a fait. Et moi, je me souviens de ces images, surtout ces images des massacres en Algérie, ces images de Khaled Kelkal. Et c'est un truc qui m'a bouleversé. Je ne savais pas quoi en faire quand j'avais 20 ans, je crois que c'est ça. Mais je réagis un peu comme un historien, d'une manière ex poste. Je ne pense pas que sur le coup... mais quand même, il y avait un peu d'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Et je pense que, ayant dépassé la quarantaine désormais, et étant écrivain, et j'écris ce bouquin parce que, d'une certaine manière, sans arrogance, sans romantisme, et je réponds à ce gamin de 20 ans que j'étais, et je lui dis, tu vois, on peut faire quelque chose. Finalement, je fais quelque chose. Alors, sans pour autant employer le terme de... comment on pourrait dire, de roman mémoriel, ce qui serait un peu arrogant, mais c'est en tout cas un roman de mémoire, quoi, au sens où, rappelez-vous ce qui s'est passé, et surtout... rappelez-vous que ce qui s'est passé en Algérie dans ces années-là, ça a donné plus tard, donc Khaled Kelkal qui pose des bombes, mais plus tard le 11 septembre aussi, donc Al-Qaïda, et 15 ans après le 11 septembre, le Bataclan, Charlie Hebdo. L'ambition, quand je me mets à écrire ce bouquin, c'est de dire à moi, à 20 ans, tu vois, on fait quelque chose, mais c'est aussi de garder en mémoire et d'expliquer un phénomène qui paraît nouveau, qui paraît incompréhensible, et qui l'est pour beaucoup de gens. D'ailleurs, je ne dis pas que je comprends complètement le phénomène, mais ce phénomène qui nous a amené aux tueries du Bataclan, au massacre de Charlie Hebdo, et puis en France, mais partout ailleurs en Europe, et plus encore en Afrique et au Moyen-Orient, toutes ces tueries liées à un islamisme radical qui a décidé de prendre les armes et tout ça. Donc voilà, c'était une volonté explicative. Alors je suis pas universitaire, même si j'ai une formation, enfin, tout est relatif, mais j'ai fait un doctorat de sciences politiques. Mais c'est pas en tant qu'universitaire ou ex-universitaire que je fais ça, c'est bien en tant que romancier. Donc c'est un roman qui se place dans l'histoire avec un grand H.
Mais justement, c'est pas aussi parce que il y avait de la place, peut-être un peu trop. Enfin, Ça fait partie des sujets qu'en France, on traite avec beaucoup de parcimonie. Donc il y a vraiment une place qui doit être prise pour justement peut-être expliquer certaines choses. Aux États-Unis, ils le font presque
Mais c'est ce que j'allais dire quand je parlais de mémoire, de mémoriel. On a un petit problème, je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, vous lecteurs, mais moi, en tant que lecteur, on a un petit problème avec la mémoire. Disons que il y a très peu de romans aussi, il a fallu attendre assez longtemps pour avoir des romans sur la collaboration, par exemple, la collaboration et les crimes, enfin, milices et autres exactions liées à cette période noire. Et on a très peu aussi de mémoire et de volonté de se retourner sur la guerre d'Algérie, par exemple, c'est aussi qui s'est terminée en 62. Je pense qu'on a aussi... C'est compliqué la décolonisation et puis c'est plus la décolonisation dont je parle, mais c'est quand même la France qui est liée à l'Algérie, un peu comme un grand frère, un peu un ennemi mais un ami aussi. C'est-à-dire que le gouvernement français à cette époque-là a été en train sans doute d'essayer de préserver son précariat africain et donc maghrébin. En France on a du mal avec cette mémoire-là. Vous avez très justement dit que les Américains le font plus facilement, à tel point qu'il y a des auteurs qui ont écrit sur le Vietnam au moment où, peu après le Vietnam, les cinéastes le font aussi. Coppola, quand il fait le film Apocalypse Now, ils sont encore en guerre, quoi. Ils sont en guerre au Vietnam, c'est en 73, 72. Après, il doit arrêter et il le reprendra plus tard, mais quand même, il y a une volonté. Et ils l'ont fait. Les auteurs et les réalisateurs l'ont fait aussi beaucoup plus rapidement pour l'implication des forces américaines en Irak, en Afghanistan, ce qui a donné vraiment un retour sur soi, quoi. Alors nous, on a un peu de problème avec ça. On a un peu un problème. On a du mal à penser nos propres erreurs, quoi. Mais sans doute que j'essaie moi-même en tant qu'homme, en tant qu'individu. On le dit en plus que j'ai du mal à faire retour sur moi. Mais bon, il faut le faire. Je pense qu'il faut... C'est essentiel, et d'ailleurs, c'est sans doute le rôle, à mon avis, du romancier, enfin, comme je l'envisage, disons que... questionner ses certitudes, voilà.
Oui.
Voilà. Et questionner ses certitudes, c'est aussi questionner l'histoire, et l'histoire officielle, ce qu'on a tendance à appeler, et c'est quand même une locution un peu bizarre, roman national. Alors, roman national, c'est un terme qu'on emploie assez souvent, mais qui me fait bizarre, parce que d'abord, le roman, c'est romancé. Si jamais on entend ça par le roman national, donc l'histoire française, ça veut dire qu'elle est romancée, ça veut dire.
Oui.
Je cite souvent une phrase de Voltaire. J'essaierai de pas la mettre en dédicace. Là, mais j'aime bien celle-là. C'est Voltaire qui dit l'histoire avec un grand H est un mensonge sur lequel les historiens se sont accordés. Et j'aime bien cette idée. Alors les historiens et puis peut-être les politiques aussi. Mais j'aime bien cette idée que finalement l'histoire c'est quelque chose, c'est un peu de la dynamite, quoi. Il faut savoir, ça peut être dangereux, quoi. On peut être révisionniste, on peut la falsifier, voilà. Alors moi, en me documentant et en faisant le boulot que je fais, j'essaye d'être droit avec cette idée-là, quoi.
Justement, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez aussi du travail de recherche et de documentation, mais avant, le titre, La guerre est une ruse.
Alors, le titre, ouais. Alors, à la base, c'est un verset du Coran qui dit La guerre est une ruse, qui serait traduit également de traduction, mais enfin, la guerre est mensonge, voilà. Mais le prophète dit que le croyant a la seule possibilité au croyant de mentir, c'est lorsqu'il est en guerre, et surtout cette guerre est pour défendre les siens face à l'ennemi qui l'attaque. Il y a vraiment un truc. Alors, cette phrase a été employée par Mohamed Merah, j'imagine que ça vous dit quelque chose, un jeune homme là qui était un islamiste radical et qui a quand même... Bon, une crapule. Hein. Enfin, alors, il faut bien comprendre que ces gamins qui se font péter comme ça sont pris dans un phénomène, dans un mouvement qui les dépasse, historique, politique et sans doute embrigadé. Mais quand même, il y a un choix. Disons que je défends absolument pas ce genre d'individu. Je tiens à le dire, même si le titre est une phrase qu'il a dit à un négociateur du raid lorsqu'ils ont fait le siège de son appartement. Il lui a dit Tu sais ce que ça veut dire, Alab Kurda, en arabe donc, tu sais ce que ça veut dire, Alab Kurda, ça veut dire la guerre est une ruse, quoi. En fait, voilà, et j'ai tous les droits, quoi, pour la faire. Alors, littéralement, et pour 95% des croyants et de l'islam, c'est une méconnaissance du Coran. On fait la guerre pour se défendre et vraiment en dernier recours, et t'as le droit de ruser, t'as le droit de mentir si jamais tu dois sauver les tiens. C'était pas du tout son cas. Donc voilà, c'est ça. On m'a reproché un peu de citer cette phrase, mais c'était au contraire dire que Mera et les siens s'étaient trompés, mais aussi que la guerre de tous bords est toujours une ruse, c'est-à-dire que c'est quelque chose de moralement... Il y a une phrase de Lévinas qui dit « La guerre suspend toute morale. » Voilà, et c'est ce que je pense vraiment. La guerre suspend toute morale de quel camp elles viennent. Voilà. Donc, voilà, je dis ce titre parle aussi du rapport des hommes à la guerre aussi, parce que je suis pas dans le complotisme, mais je pense que des gouvernements, des coteries, des partis, des gens, des individus ont tiré un peu les ficelles. Pour le coup, dans cette décennie noire en Algérie, il y a eu des manipulations, c'est-à-dire que les généraux au pouvoir ont manipulé les groupes islamistes. Et d'ailleurs, je pense que certains islamistes ont manipulé les services secrets également. Donc ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné un gamin qui fait péter des bombes. Ça a donné après Al-Qaïda et tout ça. Mais je pense aussi que les individus sont pas que des pantins qu'on manipule. Il y a aussi Mera, quand il fait ça, je peux pas lui reconnaître « Ah, mais il était jeune, il a rien compris, c'est pas vrai. » Il y a aussi un moment, un choix à faire en tant qu'individu. Donc, ce titre est ce qu'il est, mais c'est surtout pas une légitimation d'un nihilisme d'ordre religieux qui a poussé Mera à la dire juste avant de mourir en tirant partout. Quoi.
Enfin, de toute façon, à la lecture du roman, ouais, on comprend très bien le titre. À la fin, on se dit, mais oui, enfin, le titre est parfait.
Et d'ailleurs, le personnage principal, mais je pense qu'on va en parler. Oui, posez des questions.
La documentation, ça m'intéresse beaucoup. Comment il s'est construit, le roman? Est-ce que c'est uniquement dans la recherche? Est-ce que vous avez fait des entretiens? Est-ce que vous êtes allé en Algérie? Est-ce que... Comment?
Moi, j'ai pas de... Des fois, on me dit, ouais, mais t'as des connaissances dans des USE. Mais non, j'ai pas de... À la limite, j'ai envie de dire que tout ce que je dis dans le roman, on peut le trouver en se documentant. Si on a le temps, si on a l'envie, si on a peut-être mes névroses aussi, parce que peut-être que ça pousse quand même à faire cette recherche. Mais enfin bon, moi j'adore l'histoire, j'adore l'actualité, j'aime bien l'arrière-boutique de l'histoire aussi. Et j'aime bien me dire, bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé, quoi. Alors, mais tout le monde peut le faire. J'ai pas de connexion particulière. Je suis pas allé en Algérie parce que c'est un pays qui est un peu, quand même, toujours actuellement assez dangereux. J'écris un livre sur l'Algérie, mais du côté de ce que je suis, le Français qui sait que son pays a les mains un peu sales, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'écris en tant que Français, quoi. Évidemment, je vais pas me faire passer pour un, enfin, je vais pas écrire du côté algérien, même si j'ai des personnages qui sont algériens et tout ça, mais quand même, je garde cette vision, enfin, cette perspective, disons, je suis de ce côté-là de la Méditerranée. Et donc, la documentation, parce que c'était ça un peu la question, et ben, la documentation, ouais, ça vient, c'est un peu, j'ai pas mal lu sur cette période. D'abord, la guerre d'Algérie jusqu'en 62, la guerre d'indépendance. Et après, on remonte un peu. C'est une grosse bobine là, qu'on tire le fil et ça se déroule. Et puis, ouais, moi j'aime bien l'histoire. Donc, c'est pas un truc qui m'est insupportable de me plonger dans un bouquin, de regarder des documentaires, de fouiller aussi dans des archives. Je me suis pas mal inspiré des archives d'une ONG qui a lutté contre, enfin qui a tenu le compte des massacres et des exactions qui ont eu lieu. Ça s'appelle Algeria Watch. C'est une grosse ONG algérienne qui a tenu le compte des massacres pendant les années 90 et tout ça. Il y a pas mal de documentation. Il faut remonter pas mal de témoignages d'anciens de l'armée, d'anciens repentis islamistes et tout. Donc c'est je veux dire que ça, c'est pas une douleur pour moi de faire ce truc. C'est un truc. Peut-être que des fois, des gens me disent, mais putain, comment t'arrives à te fader ça? Enfin, ça t'en a pas marre. C'est vrai que c'est pas joyeux, honnêtement. Mais c'est un truc qui me rassure, je sais pas, de construire les fondements du roman que je vais après élever dessus. Vous voyez,
et enfin, de rationaliser, oui. Et
de rationaliser en plus, oui. Ça. Mais ça, au moins, voilà, la vraie histoire, la grande histoire avec le grand H, j'essaie de la dire vraie, quoi. Et après, dans les zones d'ombre, moi, j'insère mon roman, j'insère mes personnages et tout ça.
C'est vraiment très, très bien fait, parce que justement, on discutait tout à l'heure, autant il y a cette partie, cette toile de fond politique qui est la base, la base du roman. Et là-dessus, il y a des personnages qui interviennent, qui sont extrêmement attachants. C'est une des grandes forces du roman, c'est qu'on peut avoir peur parfois si on se dit, oula, mais moi, la politique, l'histoire, tout ça, ouais. Ça ne me... Et non, ça n'a aucune importance, parce que le récit, les personnages, les drames, tous les drames de ces personnages font que c'est profondément humain, malgré la violence qui est inhérente à ce type de sujet. Et on va commencer par Ben Lazare, parce que je pense que tout le monde a été marqué par Ben Lazare et tout le monde veut le retrouver rapidement.
C'est étonnant, oui, oui.
Vous l'aimez bien, Ben Lazare?
Ben moi, j'aime bien mes personnages. C'est vraiment un truc... je veux pas jouer les... Non, sans arrogance, les personnages, quand on les écrit, quand on commence à les faire vivre comme ça, 50, 100 pages, là, derrière mon ordinateur, à un moment, ils prennent une espèce de dimension. Alors, c'est pas tridimensionnel. Je suis pas assez dingue pour penser qu'ils existent vraiment. Encore que... ils prennent un vrai corps. C'est-à-dire qu'un peu comme dans la réalité, quand... Ils ne peuvent pas dire des choses. À un moment, ils ne peuvent plus dire des choses qu'ils ne diraient pas. Enfin, un peu comme quand on a des amis dans la réalité où j'en ai eu qui n'allaient pas bien, qui avaient même des troubles un peu psychologiques et tout ça. Et quand ils commencent à dire des trucs bizarres, on s'aperçoit que ce n'est pas normal. Vous voyez ? Et le personnage, c'est un peu ça. Le personnage, c'est... À un moment, il me tire aussi. Alors, sans pour aller... c'est pas eux qui décident, mais quand même il y a quelque chose de l'ordre de la réalité. À la fin du bouquin, quand les personnages, soit s'ils meurent, soit je finis un bouquin, c'est un peu bizarre de les laisser, quoi. C'est d'autant plus bizarre qu'il y a des lecteurs qui m'ont sorti des trucs sur les personnages et c'est pas du tout comme ça que je les voyais, quoi. Ils me disent, ah ouais, super, on dit que j'ai une écriture assez cinématographique, alors souvent la question c'est, ouais, j'aimerais bien Depardieu à la place d'un personnage. Moi, je voyais Gérard Jugnot. Enfin, quasiment, on est là. Enfin, presque, on n'en est pas là. Mais et je dis, ah bon, tu vois lui, tu vois où elle et tout. Et je suis assez étonné de ça. Ça veut dire aussi que finalement, il y a autant de personnages et autant de romans qu'il y a de lecteurs, quoi. Et c'est assez fascinant quand on est un peu face à l'univers. On est couché dans un jardin, on regarde les étoiles et on se dit jusqu'où ça s'arrête, quoi. Parce que finalement, chaque fois que quelqu'un va lire ce bouquin, il aura pas la même vision que la mienne, pas la même vision, et je trouve ça assez c'est assez vertigineux. Et j'aime bien cette histoire. Pour revenir à votre question, Tedj Ben Lazare, ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que c'est pas un super-héros, c'est un type qui traîne quand même quelques casseroles. Il est officier de la DGSE, en plus sur un terrain de guerre. L'Algérie, à cette époque-là, est considérée par le Quai d'Orsay, par les affaires étrangères, comme ce qu'ils appellent une zone rouge, quoi. Enfin, les touristes ne peuvent pas y aller. Enfin, les fonctionnaires travaillent sont reclus à l'ambassade de France et tout. Bon, il y a eu des enlèvements de ressortissants français, et puis il y a tous les meurtres des Algériens sur place. Et Ben Lazare se retrouve là un peu à découvrir un truc pas net, quoi, ce que j'appelais la manipulation en fait des groupes islamistes par les généraux au pouvoir. Il est censé faire remonter les informations au gouvernement français, mais lui-même, je veux pas cramer le truc, mais il a quelques problèmes un peu profonds qui pourraient même le faire un peu sortir du service si jamais on s'en apercevait. Cependant, il est aussi un personnage. Et en fait, ce n'est pas une volonté au début de faire ce personnage un symbole, mais il est devenu, sans doute avec la documentation que j'ai intégrée avec les personnages, l'histoire que j'ai fait. Il est devenu ce personnage, et je m'en suis aperçu vraiment à la fin. Il symbolise en fait... sa mère est française, son père est algérien. Donc il symbolise en fait les liens étrange entre la France et l'Algérie, quoi. C'est un peu un pont au-dessus de la Méditerranée, Ben Lazare. C'est un peu ce type-là. Non seulement ça, mais en plus, comme il a des casseroles, il traîne des casseroles et qu'il est un peu cabossé, il parle aussi de cette situation, de ce pays qui sombre complètement, quoi. Et il a quelque chose il symbolise un peu ces années en Algérie et les rapports de la France et de l'Algérie. Et au-delà de ça, je l'aime bien. Je suis assez. C'est pas un super héros. C'est pas un mec. La violence, c'est assez compliqué à gérer. D'ailleurs, il le dit à un moment. Il assiste à des trucs pas jolis et il le vit assez mal, quoi. Et j'aime bien cette idée aussi que.
Il y a une ambivalence, enfin cette ambivalence-là, le côté franco-algérien, elle est encore plus percutante lorsque ce sont ses collègues qui en parlent, quand il en parle parce qu'il le regarde en tant qu'Algérien,
ah oui.
Principalement, et on dit que lui, il sent l'Algérie, et c'est pas...
Non, on le soupçonne, des deux côtés, on le soupçonne de trahison, finalement.
Oui, exactement.
On le soupçonne, mais c'est de l'ordre du possible. C'est surtout un des rares... qui parle l'arabe, quoi.
Oui.
Et alors ça, je l'ai pas inventé. En fait, lorsqu'il y a eu le détournement du vol d'Air France là en 94, lorsque des fonctionnaires ont été enlevés aussi à l'ambassade de France là, le Quai d'Orsay et la DGSE, ils étaient complètement largués. Ils savaient plus du tout. Mais alors je l'ai lu. Hein, c'est des témoignages. Et surtout, ils étaient tellement largués que il y avait très peu d'officiers qui parlaient l'algérien, quoi. Qui parlaient. Donc, c'est dire, ils étaient un peu largués. Et donc, voilà, mon personnage, lui, parle l'algérien, l'arabe. Et c'est pour ça qu'on lui dit qu'il est un peu bizarre. Il est un peu hors norme, quoi. Mais c'est celui qui sent l'Algérie, on dit ça. Et ses collègues français lui disent, en gros, il sent l'Algérie. Enfin, il ressent l'Algérie parce qu'il est trahi, quoi, en fait.
Oui.
Parce qu'il est algérien. Donc, c'est un truc un peu... Et cette ambivalence, il l'a subi aussi, Tedj. Ouais.
Il y a aussi, venant de la part de Ben Lazare, mais d'autres personnages aussi, des Algériens, de très beaux passages sur ce que c'était la Casbah avant et ce qu'elle était devenue suite au début des années 90.
Ouais.
Et à ces violences entre les généraux et le fils. Où est-ce que vous avez... Enfin, c'est dans les témoignages aussi,
ouais.
Cette description de la Casbah. C'est douloureux, c'est très très douloureux quand on lit, quand on se rend compte à quel point la vie s'était arrêtée.
Ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de témoignages, hein, là-dessus. Et puis Internet, c'est quand même une mine, parce que dans un pays où la liberté de la presse est quand même limitée, où il y a un seul parti au pouvoir, où il y a cette phrase. Jaoun, qui est un poète, qui dit un truc très juste, qui parle de l'Algérie des années 90. Alors, moi je dis que c'est lui qui l'a dit, mais on dit que c'est un peu apocryphe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui l'a dit, mais je crois que c'est lui qui l'a dit. Et il dit, en tout cas, il existe cette phrase qui dit « Si tu, à l'époque, dans les années 90, en Algérie, si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs, parce qu'on tuait les innocents, même on tuait ceux qui... Donc si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs, alors parle et meurs. Au moins, tu auras parlé. Enfin, c'est ça. Et dans un pays où la liberté de la presse n'existe pas, voilà, on risque de se faire tuer parce qu'une jeune femme ne porte pas le tchador, peut se faire vitrioler, mais aussi se faire tuer par, enfin, un homme peut se faire tuer par les forces de police, il est soupçonné d'allégeance aux islamistes. Eh bien, il y a eu beaucoup de témoignages sur Internet. Alors, c'était vraiment le début d'Internet et tout ça, mais par la suite, les gens ont un peu déversé ce trop-plein de silence, finalement, et ce qui donne quand même beaucoup de témoignages poignants, de descriptions aussi de cette peur. Je crois que Rzala, là, qui est la jeune fille, l'héroïne algérienne, dit à un moment, je dis « je crois » parce que parfois ça m'échappe, mais effectivement, elle dit ça. Elle dit la Casbah baisse la tête, quoi. Enfin,
oui.
Alger baisse la tête. Et voilà, et la peur est omniprésente, quoi. Mais ça, c'est des témoignages qui le disent. La vie change, quoi. Les jeunes ne sortent plus. Les jeunes garçons peuvent encore sortir un peu le soir, mais les filles, il faut vraiment qu'elles fassent attention. Ça peut exploser de partout. Enfin, je crois qu'on a du mal à imaginer ce que peut être une décennie de cet ordre-là. Enfin. Ça se passe en Algérie, j'imagine qu'en Irak, qu'en Afghanistan, actuellement, c'est la même chose qu'en Somalie, c'est pareil. Enfin, c'est pas...
Oui.
Je crois qu'on a du mal à imaginer. Et voilà, j'essaye de le faire comprendre.
C'est justement, oui, la littérature, c'est d'abord à ça, je pense.
Oui.
Enfin, quand on lit ce type de roman et de récit, c'est qu'on veut savoir, au moins, pouvoir pas toucher, mais se mettre à la place des personnages, et comme ils sont très proches de nous à la lecture, ouais. On peut imaginer que Zala, vous en parliez tout à l'heure, c'est peut-être un des personnages les plus lumineux, même s'il est plus triste, mais lumineuse, c'est le mot qui vient le plus facilement à l'esprit. C'est un des personnages qui fait basculer justement du côté noir, la noirceur du roman. Avec elle, on a accès à autre chose. C'est elle qui dit « je ne veux pas partir, pourquoi quitter mon pays ?»
C'est bien. Pourquoi elle ne veut pas partir ?
Pourquoi vous avez déjà tenu à intégrer une figure comme ça ? Elle est arrivée là ?
Alors, je pense, et c'est pas... J'enfonce un peu une porte ouverte, mais je pense que en toute guerre, et particulièrement les guerres qui sont fondées sur des problématiques religieuses et tout ça, la femme paye un lourd tribut. On le voit avec les viols de guerre, on tue les femmes au Rwanda pendant le génocide en 1994 pour éviter qu'elles enfantent des Tutsis, quoi, des cancres là. La femme était la matrice d'impossible retournement, de retour du bonheur ou d'un ordre. Et donc elle paye le prix lourd. Zala, c'est justement le témoignage de ça, quoi. C'est le témoignage de ça, mais c'est le témoignage aussi des femmes qui ont, parce que les femmes pendant cette décennie ont refusé, que elle le dit, à un moment c'est les hommes qui font la guerre, c'est les hommes et nous on en subit le prix. Il y a eu des grandes manifestations de femmes, il y a des femmes qui sont mortes, des journalistes qui ont été tués parce que elles ont osé parler, tout ça. Et ça, c'était, je voulais vraiment en parler parce que dans cette décennie de massacre où on sentait qu'il y avait rien de bon pouvait en sortir, et ben il y a peut-être alors des gens, même des hommes et tout, mais peut-être que les femmes ont fait quelque chose de bien. Elles ont décidé de parler alors qu'elles, comme disait Tahar Jaoun, alors que lorsque tu parles, tu meurs, quoi. Mais tant pis, un moment, quoi. Et il y a quelques grandes figures algériennes, des avocates particulièrement, qui ont payé le prix fort, qui sont mortes, hein, mais pour avoir dit non, quoi. Il y a eu des grandes manifestations de femmes dans Alger qui étaient interdites par le pouvoir, mais quand même plusieurs milliers de femmes comme ça, regardées de travers par les islamistes et par le pouvoir. Enfin, faut avoir ce qu'on a. Voilà, j'emploierai une expression viriliste, mais. Faut en avoir, quoi. Enfin, une sacrée paire, quoi.
Mais c'est une présence importante.
Ouais, non, je...
Parce que ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est le type de roman qui, généralement, est très testostéroné, où tous les personnages, pratiquement ailleurs, sont des hommes, où ce sont eux qui portent l'action. Et là, on a au centre du roman cette jeune femme qui nous fait basculer. À côté d'elle, c'est important aussi de parler de deux frères.
Oui.
C'est un tandem qui est très très symbolique.
Slimane et Raouf, qui sont alors pour le coup aussi, symboliques de cette période. Il y avait deux camps, quoi, en Algérie. Il y avait les islamistes, il y avait les islamistes et le pouvoir militaire. Au milieu, il y avait le peuple qui se faisait massacrer, sûr. Mais quand on voulait être dans l'action et faire quelque chose, en fait, il n'y avait pas 36 000 camps, quoi. En gros, même si les intellectuels ont résisté, même si les femmes dont je parlais ont résisté, même si des journalistes se sont fait tuer, des journalistes ont essayé de témoigner, ça, c'est sûr. Mais la jeunesse, c'était soit rentrer dans le FIS, le GIA, soit rentrer dans l'armée et tout. Et ces deux frères choisissent, à la fin des années 80, après les grands mouvements de jeunesse et la création du FIS et la création du GIA, de rejoindre l'armée et devenir un soldat d'élite, hein, vraiment, qui chasse les terroristes dans les maquis. L'autre, d'embrasser la religion, quoi, et d'abord d'être avec le FIS et... disons, piégé et de devoir aider le GIA et tout ça. Donc c'est aussi, c'est un peu Abel et Caïn. Enfin, c'est une lutte fratricide et qui parle aussi de la guerre civile. Un peuple qui s'entre-dévore comme ça, à la fin, il n'en reste rien. Et pour le coup, il ne reste rien de Slimane et de Raouf à la fin, quoi. Mais voilà, il y a aussi dans l'ordre du symbolique. Et comme pour Tedge, ce symbolisme, il m'échappe un peu, parce que quand j'écris ces personnages et tout ça, je n'ai pas cette idée première de faire ça, quoi. Et c'est vraiment un truc qui est étonnant. Alors je l'ai quand je le fais au bout d'un moment, mais c'est pas... D'abord, je fais très peu de plans quand j'écris et tout ça, donc j'ai pas ce plan qui me dit tiens, deux personnages qui sont... Mais ça vient seul, quoi. Ça vient seul. Donc voilà. Et ces deux frères parlent aussi de cette décennie, quoi, et de ces camps opposés qui vont de toute manière aucun ne gagnera, quoi. Aucun ne gagne, quoi, en fait. C'est un peu mon côté un peu nihiliste, un peu super joyeux, mais enfin.
À côté d'eux, surtout à côté de Ben Lazare, il y a Rémi Bellevue. Et j'ai pensé en lisant et en relisant du coup le roman, on dirait un peu une image de la France-Afrique repentie. Il est très étrange, ces personnages.
Bah lui, il vient de la France-Afrique. Oui, il était au Mali dans les années 60, il a fait le Tchad et tout. Et c'est lui aussi, il parle de cette France, de ce précaré africain. C'était les réseaux Focard, l'homme liche de De Gaulle et puis de tous les présidents qui se sont suivis d'ailleurs. Ce type qui avait des réseaux en Afrique et qui permettait à la France d'être présente encore en Afrique après la décolonisation et tout ça, via les multinationales, via des coups, des barbouzes et des coups pendables. Mais et on est un peu à la fin de ce moment-là. Il y a encore des réseaux africains, les réseaux particulièrement de Charles Pasqua, qui a des réseaux africains et qui réussit un peu à maintenir une présence française et surtout à faire surnager les ministères français, enfin de leur faire comprendre ce qui se passe et limiter la casse. Mais c'est vraiment les tout derniers feux, ouais, d'une France-Afrique. Et Bellevue, Rémi de Bellevue. Lui aussi, d'ailleurs, sans pour autant révéler ce qui va se passer, mais son destin, tout au cours et surtout sa fin, révèle que c'est fini, quoi.
C'est, oui.
C'est la fin de la France-Afrique, c'est la fin de la colonisation, c'est vraiment les derniers feux. Et certains s'accrochent encore à ça, quoi.
Mais ce qui est particulier, c'est qu'on sait, que ce type, on se doute de ce qu'a été sa vie. Pourtant, c'est un personnage qui est extrêmement attachant, c'est impressionnant.
Il est repenti, ouais.
C'est
ouais.
Ça. Hein.
Il est repenti, mais c'est trop tard, il le sait aussi. Enfin, en gros, il sait que quand on fait des trucs un peu trop dégueulasses, on s'en remet pas, quoi. Enfin, donc la violence, bon, c'est un soldat, il a tué des gens, il a fait disparaître des gens aussi, bon. Et à un moment, ouais, il en portera toujours la marque, l'odeur, et il le sait un peu.
Si, ouais, si un anti-héros là-dedans. Ouais,
Il y a beaucoup d'anti-héros finalement, parce que Tedge aussi est un héros. Ouais. Moi j'aime bien l'idée du anti-héros en fait. Ouais, c'est assez attachant, un anti-héros. Beaucoup plus attachant qu'un super-héros d'ailleurs, je trouve. Enfin, bon.
Oui, parce qu'il a des failles. Il a des failles, ouais. Donc du coup.
Mais disons, tout le monde a des failles, quoi. Je dirais même que le super-héros a des failles, quoi. Enfin, donc,
elles ne sont pas très visibles, ces super-héros.
Ouais. Mais bien sûr que tout le monde a des failles, ouais, ouais. Et ouais.
Celui qui n'a pas de failles, c'est Khaled, vous en avez parlé au début. Il a un rôle très important dans le roman. Ce gamin qui quitte la périphérie de Lyon et qui devient ce qu'il devient, ouais. Ça vous a coûté de vous arrêter sur son histoire, de la reprendre et de défiler le... Enfin,
alors oui, c'est en fait... des chapitres très courts qui scandent tout le récit. Mais non, c'était une manière de dire qu'à un moment, ce gamin était tout à fait normal et a basculé, quoi. Et donc, c'était de suivre aussi ce parcours. Mais c'était assez troublant. Moi, je suis tombé sur une interview d'un sociologue autrichien qui a fait une grande enquête au début des années 90, dans les quartiers dits sensibles, et particulièrement à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, c'est là où sont apparues les premières émeutes des cités, quoi. C'est vraiment les premières à la fin des années 80. Donc le type, le sociologue autrichien, il se penche sur ce problème et il débarque dans ces quartiers. Il interroge, il fait des interviews au long cours des jeunes. Et par hasard, hein, ben, par hasard parce que l'histoire a voulu que ça soit un hasard, mais il interviewe Khaled Kelkal. Et même, je crois que sur le site du Monde, on peut relire cet article qui fait une dizaine de pages, qui est assez impressionnant. Et il parle, et Kelkal lui parle comme ça, et lui dit des choses assez... C'est étonnant comme il est assez lucide sur son situation sur l'incapacité qu'il aura à s'intégrer dans la société française comme on lui propose. Il a déjà désarmé quoi. Enfin, alors que c'est une époque où il est sorti de prison, il a fait un peu de prison, mais ça il n'a pas encore apparemment de lien avec le GIA et tout ça. Mais il dit un truc comme l'intégration, c'est ce qu'a essayé de nous vendre. Comment ?
C'est un mensonge de la gauche.
C'est un mensonge de la gauche, quoi. Il le dit, quoi. C'est assez étonnant pour ce gamin qui ouais. Et donc voilà, en ayant lu cet entretien, ça donne à voir aussi ce gosse. Alors, ça légitime pas du tout ce qu'il a fait. Enfin, c'est vraiment pas le problème. Mais ça interroge, ça questionne une certitude. Moi, le mal vient de quelque part. Enfin. Mais ça pardonnerait hein, au bout. Enfin, voilà.
Non, mais c'est essayer d'expliquer et puis s'interroger. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais fait figure de pardon. Mais c'est important de se poser toutes les questions. Ouais. Parce que oui, j'avais noté cette phrase, l'intégration, c'est un mensonge de la gauche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde autour de nous et on se dit, oui, deuxième, troisième génération. Ouais. Quelque part, à un moment donné, il y a eu un...
Basculement.
On s'est pas rendu compte.
Ouais, on s'est pas rendu compte. Et lui, il l'a dit. Bon, oh oui, ça pardonne pas, ça. Ouais, ça donne un début d'explication, peut-être. Mais oui, c'est compliqué. Allez, d'abord, mon bouquin, c'est pas essayer de, c'est pas de la sociologie. Voilà, j'essaye pas non plus de trouver. En gros, ça pose des questions, ça donne pas beaucoup de réponses. Enfin, mon roman, Non. Bah, c'est pas mon propos non plus. Fin...
Non, mais ce qui se passe, c'est que, justement, vous allez voir à la lecture, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est que cette manière de scander le roman, c'est comme un compte à rebours.
Oui.
C'est une des particularités de la construction du roman et qui fait qu'en fait, la tension va en grandissant. Parce que pendant qu'à Alger, les choses se passent, la vie de Khaled prend aussi une autre direction. Et donc, du coup, on suit en parallèle.
Oui, tout d'un coup, ce qui se passe en Algérie rejoint sa propre vie à lui. Et c'est là où on allume la mèche. Quoi.
Oui. Mmh. Et je m'en veux parce que pour revenir en Algérie, j'ai oublié de vous demander les honorables correspondants qui bossent comme on dirait des petites souris qui viennent et qui tiennent. Bah,
c'est étonnant. Oui. C'est marrant parce que vous employez le terme souris et l'acronyme, là, il y a un acronyme à la DGSE qui s'appelle MICE. Alors MICE, c'est les raisons pour lesquelles les indiques, les honorables correspondants, qui sont les indiques des officiers traitants de la DGSE sur place. MICE, c'est. Mais je ne vais pas retrouver, c'est de l'anglais. Les gens comme ça acceptent de travailler pour un État étranger ou parce que parfois c'est monnaie, maïs. Alors le M monnaie. Je me souviens plus. Et il y a l'ego, la faim aussi. Enfin, il y a deux ou trois raisons. Il y a quatre raisons qui poussent à les honorables correspondants à trahir leur pays en fait. Et c'est assez étonnant. Et souvent c'est plus parce que c'est par égo surdimensionné, quoi, en espérant qu'on retrouve ce qu'ils disent dans les journaux et tout ça. Donc, et eux, c'est les yeux de la France à l'étranger, en gros, quoi.
Oui, mais et pourtant, enfin, il y en a parmi eux à qui vous donnez vraiment une. Ils sont comme si c'était des personnages principaux, leur importance, leur rôle, leur humanité. Mmh. Je pense surtout à un certain flic. Algérien.
Phil Ali.
Oui, exactement.
Alors oui, qui n'est pas tout à fait un honorable correspondant. Lui, ça serait plutôt... Tedge, ils s'aiment bien tous les deux, quoi. Il le dit. Ouais. À un moment, Tedge dit, c'est peut-être le flic d'Alger qui a le moins de sang sur les mains, quoi. Et encore, il n'en est pas très sûr. Mais ils s'aiment bien. Je ne crois pas que... Je ne le classerais pas dans les indiques, lui. En fait, il essaye...
Il rend service.
Il voit bien que son pays... se délite complètement, il va vers l'implosion, quoi. Donc il essaye de faire au jour le jour, peu ou prou, devant lui, au quotidien, quelque chose pour éviter que ça aille trop loin. Donc, en parler à Bennazar, qui est un officier de l'État français, qui, l'État français pouvant peut-être intercéder par rapport aux généraux qui dirigent le pays, tout ça, enfin, il voit que peut-être le cercle pourrait être moins vicieux, un peu plus vertueux, comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il balance des informations. Mais lui n'est pas un honorable correspondant, quoi. Ouais, effectivement. Pourquoi vous rigolez comme ça?
J'aurais bien aimé aussi savoir si vous avez eu des retours autres que de lecteurs, comme ce sont des sujets délicats.
On a eu les journalistes et tout ça, et on a eu des excellents retours le Courrier de l'Atlas, par exemple, qui est un journal du Maghreb à l'étranger, hein, en fait, et avec un beau papier, mais dès le début, quand on a envoyé, en fait, on envoie aux journalistes ce qu'on appelle les épreuves non corrigées, quoi, qui est un faux livre, quoi, enfin un faux livre avec le texte à l'intérieur, mais vous voyez, il est tout blanc. Et on lui avait envoyé ça, c'est tout. Il a vraiment répondu assez vite en nous disant que oui, quoi. Enfin, en gros, ça, lui, enfin, le journaliste qui connaissait quand même ce qui s'était passé, pour avoir été dans le contexte à l'époque, il a vraiment été. Ça lui a parlé. Puis il a reconnu le boulot, il a reconnu que c'était bien de faire ça. Il y a eu une présentation du bouquin sur le quotidien d'Alger, donc à Alger. Oui. Et alors c'est une présentation assez liminaire et c'est un résumé, mais après il y a les posts, enfin il y a les lecteurs, on balance des trucs et c'est troublant de dire. J'espère que ce livre va être traduit en français ou on va le trouver sur Internet parce que il faut quand même parler de cette période. On n'en a jamais parlé. Les Algériens disant ça. Alors c'est quelques lecteurs comme ça, mais c'est assez. J'en suis assez fier de ça.
Émouvant, oui.
Ça légitime un travail que. Ouais, j'en suis assez content. Alors au-delà de ça, il y a quelques spécialistes de la question qui ont aussi plutôt apprécié le boulot. On a des vraiment très bons retours, pour tout dire. En parlant de fierté, il y a mon éditrice qui est là, Nadège Agulot, et on est vraiment, c'est assez. Alors c'est chouette hein, quand on fait un boulot comme ça, je dois dire. Mais au-delà de ça, ouais, ça donne envie de continuer, quoi. Enfin bon, voilà. Donc on a vraiment des bons retours. Les lecteurs sont super contents, les libraires aussi, les journalistes. Et j'ai été interviewé par la journaliste du Journal du Dimanche, là, qui, elle, a été au début des années 90, là, quand le FIS est interdit, les élections, le processus électoral est stoppé. Elle a été sur place. Et elle me dit, oui, que je décrivais vraiment bien le truc, que ça avait du sens, que elle n'avait pas entendu parler d'un roman français qui parlait de ça, et alors que c'était un truc qu'elle portait comme ça. En elle, parce qu'elle était assez jeune journaliste quand elle y était dans le coin et qu'elle sentait monter le truc, quoi. Oui. Tout le monde sentait monter la catastrophe, le chaos. Et elle disait que quelques mois après, elle, en tant que française, journaliste, femme, elle ne pouvait plus mettre les pieds en Algérie, quoi. Donc elle m'a aussi dit, ouais, c'est vraiment bien de faire ça, et puis ça a du sens, quoi. Donc les spécialistes aussi. Maintenant, les militants du FIS, des militaires repentis et tout ça, non, j'ai pas eu de.
On en leur demande.
Pas encore.
Mais bon. Pour la suite, du coup, parce que c'est le début d'une trilogie, donc on attend deux autres romans.
C'est une trilogie, mais de lecture assez autonome. Je voulais pas faire vraiment. On pourrait lire le deuxième ou le troisième sans avoir lu le premier. C'est commercial, ça casserait un peu le plaisir, mais enfin bon, si ça pourrait se faire. L'idée, c'est ça, c'est pas de. J'ai aucune envie d'enchaîner le lecteur. Disons que j'ai pas. Ouais, ce serait un peu arrogant de lui dire. Mais néanmoins, on va retrouver les personnages qui vont passer en personnages secondaires ou les personnages secondaires passaient en première, apparition de nouveaux personnages. Et l'idée, c'est de faire. Les 30 ans depuis le début des années 90, donc jusqu'à la fin 2015.
C'est ce que j'avais demandé. Vous allez vous rapprocher de notre présent, ouais. Du coup, au fur et à mesure. Donc, ça a un risque pas peut-être un peu plus sensible.
C'est compliqué, là. Il faut vraiment, sensible d'un autre côté. Il y a cette période, on peut dire que c'est l'histoire, c'est le passé. 92, c'est vrai que c'est 25 ans, mais il y a des survivants de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont connu de près, qui ont perdu qui ont été blessés. Hein. Donc déjà là, comme postulat de départ, je m'efforce de ne pas dire des conneries, de ne pas inventer des choses, de ne pas falsifier l'histoire dont on parlait, pour éviter de blesser plus encore des gens qui auraient pu être victimes, témoins.
C'est une responsabilité.
Ouais, il y a une sorte de responsabilité. Alors, c'est un roman, je le répète. Donc j'ai... Mais quand même, il y a ça quand même. Il y a tout le temps... Il y a un philosophe qui s'appelle Lucien Gerfagnon qui disait... Ouais, Ok, vous écrivez des romans. Vous, les romanciers, vous écrivez des romans, mais n'oubliez jamais qu'il ne faut pas prendre les lecteurs pour des cons. Et je pense qu'il ne faut pas les prendre aussi pour des... alors, pour des imbéciles, et surtout pour des insensibles. Ça peut... Il y a aussi, dans ce genre de roman, celui que j'essaye d'écrire, qui est engagé, qui est armé, ça peut toucher des gens. Je sais. On a abordé le titre, là. Je sais que ça peut peut-être... blesser des gens qui auraient été pris dans les attentats de Mera et tout ça. Et je le répète, hein, que c'est pas du tout mon propos, c'est pas du tout mon envie, et au contraire, je suis du côté de ces gens qui pourraient être blessés, pas du côté de...
Mais d'autant plus que la citation ne lui appartient pas.
Il n'a fait que... Oui, tout à fait, il faut rappeler ça. Mais on a une responsabilité en tant qu'auteur. Les mots ont un poids, les mots... peuvent faire mal. Hein. On sait qu'un mot de travers, dans la vie quotidienne, même dans un couple, parfois un mot mal, dans un moment de fatigue, peut faire beaucoup plus de mal que. Ben voilà, on sait que, ouais, en tant qu'écrivain, ouais, on a quand même cette responsabilité. Alors, on a tendance à dévaluer beaucoup le roman, la littérature. Moi, je crois encore, je suis de ceux qui croient que, ouais, un livre peut être une arme, quoi. Enfin,
complètement, oui.
Ouais.
Encore merci à tous pour ce soir. Merci Frédéric Poulin.
Merci à vous, c'était super sympa.